cas, j'ai déjà salué quelques personnes en arrivant tout à l'heure, mais pas tout le monde. Voilà, donc ça se retrouvera sûrement dans la journée. Je reconnais quelques-uns, mais pas tout le monde. Et puis en plus, moi, je suis pas du tout physionomiste, alors je risque des fois de dire bonjour à la même personne 3 fois de suite. Mais il y en a d'autres que j'oublie. Bon, ça fait rien. Voilà, donc je m'appelle Jean-Marie Ribet, je viens de Mulhouse. Je travaille dans une église qui s'appelle la Porte Ouverte Chrétienne, où on est une équipe pastorale. Moi, je suis plutôt chargé de mon boulot, c'est tout ce qui est dans le cadre de la formation, enseignement, formation de responsable. Donc, je dirige une formation biblique, que plusieurs ici l'ont suivi ou la suivent encore. Donc c'est une formation biblique, une école biblique quoi, qui est relayée sur le net. On a des cours, ceux qui sont géographiquement proches sont en cours en salle bien sûr, et les cours sont diffusés directement sur le net puisqu'on a les outils avec la télé, tout ça. Et donc les élèves qui sont loin peuvent prendre les cours en direct et poser leurs questions depuis leur clavier, aussi en live, hein. Et donc le technicien au fond me fait signe au fur et à mesure qu'il y a des questions et me dit, tiens, quelqu'un à Tourcoing pose telle question, et voilà, je peux lui répondre en même temps, comme un étudiant qui est en salle peut aussi lever la main, poser la question. Et les étudiants aussi, bien sûr, du travail personnel qu'on évalue à 1 heure par jour, c'est-à-dire 7 heures par semaine pendant tout le temps de la formation qui dure 1 an et demi. Alors, certaines mauvaises langues disent que j'ai menti et qu'en réalité, c'est plus qu'une heure par jour. Il faut qu'ils comptent une moyenne qui est plus que ça. Mais enfin, voilà, ça, c'est ce qui est écrit sur le papier. Voilà. Et sinon, donc, je travaille dans l'équipe de l'APO. Je fais un peu des études bibliques, enfin, et puis le travail habituel de tous les pasteurs, comme vous le faites, hein, dans le cadre des responsabilités, les entretiens, voir les gens, etc. Enfin, la vie normale de l'Église, hein. Alors, avant de démarrer, je vous présente quelques livres que vous trouvez sur la petite table là-bas. Donc ça c'est voilà, ça c'est le plus ancien. Il s'appelle Le Serpent Vaincu. C'est un petit peu le squelette du cours, hein, que je fais sur Christ. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Ça répond à des questions comme est-ce qu'on peut être sûr d'être sauvé? Est-ce qu'on peut perdre son salut? Est-ce que Dieu savait à l'avance que Adam et Ève allaient pécher? Qu'est-ce qui s'est passé avec les linges dans le tombeau? Où est-ce qu'on va quand on meurt? Pourquoi le sein d'Abraham? Enfin, voilà, tout ça. Si, moi, je dis toujours que si on veut bien aimer quelqu'un, il faut bien le connaître. Et si vous voulez bien aimer Jésus, alors il faut bien le connaître. Sinon, on l'aime superficiellement. Voilà. Sinon, ça, c'est plus facile à lire et c'est surtout plus facile à offrir. Ça s'appelle Vers la gloire par l'humilité. Donc, ça parle de l'orgueil et de l'humilité. Donc, ce livre, vous pouvez facilement offrir. Vous dites à quelqu'un, tiens, j'ai trouvé un bon livre qui parle de l'orgueil, ça m'a fait penser à toi. Et tac, vous pouvez. Et comme ça, voilà, comme ça, vous le distribuez facilement, ça passe partout. Et voilà. OK? Les comportements chrétiens, pardon, éléments d'éthique, ça, c'est un livre qui répond à des questions, à toutes, enfin, à toutes, autant que possible, disons celles qui sont traitées là-dedans, aux questions du style, est-ce qu'un chrétien a le droit de ou n'a pas le droit de? Sur des questions relatives à l'alimentation, à l'habillement, à tous les pratiques. Est-ce qu'un chrétien peut être pacifique, travailler au noir, servir sous les drapeaux? Qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'on peut faire des dons d'organes? Est-ce qu'un croyant peut épouser un non-croyant? Est-ce que le dimanche c'est obligatoire? Est-ce qu'on peut fumer, boire, etc. Les questions de piercing, tatouage, etc. Voilà. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Alors, ce livre ne prétend pas, bien sûr, répondre simplement par des oui, non, bien, pas bien, de façon très binaire, hein, mais on veut surtout présenter. Je veux surtout présenter les argumentations. Alors, il y a des points où évidemment c'est radical, c'est bien ou c'est pas bien. Et puis il y a des points où voilà, le tout c'est que vous fassiez une opinion, mais que cette opinion soit basé sur des arguments qui soient bibliques, pas simplement on a toujours fait comme ça. Bon, c'est un peu insuffisant. Hein, dans le temps, on était, je pense que dans le temps, dans les milieux pentecôtistes, on était, mais il y a très longtemps pour les jeunes, vous ne connaissez pas ça, mais on était très réducteurs. Hein, tout ce qu'on ne connaissait pas, ce n'était pas bien. Bon. C'est quand même un petit peu léger. Et si on demandait, si les jeunes nous demandaient pourquoi c'est mal, ben on disait que c'était mal parce que c'est pas bien. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut quand même. On a le droit de réfléchir. Hein. Et puis je vous présente deux DVD qui sont des compilations de petits clips que je fais pour le net qui s'appellent T'as deux minutes. Alors, par définition, ils durent chacun normalement 2 minutes à peu près. Et c'est de l'évangélisation, de la pré-évangélisation même. C'est un produit qui est surtout destiné au net. Hein, et on aborde des faits, des choses, des observations, des faits d'actualité pour arriver tout à la fin à un questionnement sur des valeurs ou quelquefois sur Dieu, sur le salut, mais pas toujours absolument directement. Donc, dans ces DVD, il y en a une dizaine différentes dans chacun des deux DVD et qui sont reliées par un fil conducteur. C'est quelque chose qui est fait spécialement pour c'est un produit de contact, d'évangélisation. Hein, c'est pour ça qu'il est fait dans une petite pochette très, très soft et vous pouvez facilement le donner au boulot, à la fac, quelqu'un. Tiens, j'ai trouvé un truc, regarde ça, puis après on en rediscute. Et voilà. Et donc on les vend à 2,50 € pour que ça puisse être facilement, très facilement distribué comme ça. Si vous en voulez 10, je vous en donne encore un 11e. Voyez. Si vous en voulez 50, on vous les fait à 2 €. Si vous voulez un camion, vous venez, on discute. Voilà. Voilà. Ah, mais je vous en passe un petit bout, tiens, si ça veut marcher. Je vous en passe un. Puisqu'on va parler du travail d'équipe, je voudrais parler des motivations, de l'engagement. Alors, on a toujours un petit pincement, parce que quand on essaye avant, ça marche. Et puis après, normalement, disons, c'est pas sûr. On va voir. Vous avez confiance? Moi, je suis un peu tendu. Hein. Des fois, on a le son, des fois, on a l'image, ça dépend. Là, on a déjà le générique, c'est pas mal. Yes. En plus, formidable. Voilà, une question sur la motivation. Être ensemble, oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on retire des autres? Qu'est-ce qu'on attend des autres? Est-ce que nos relations sont des relations seulement d'intérêt, d'opportunisme? Est-ce que c'est des relations comment sont-elles motivées? Hein, tout le monde, je pense, connaît plus ou moins quelqu'un qui chaque fois qu'il passe le voir, c'est pour lui emprunter un truc. Hein, vous avez quelqu'un, il vient. Tiens, bonjour, ça va? Ouais, au bout de 2 minutes. Dis, tu pourrais pas me prêter ton, tu sais, t'as un outil pour, oui, bien sûr. 15 jours après, il repasse. Ça va? Ouais, super. Au fait, t'aurais pas, et 15 jours après. Et à la fin, quand tu arrives, tu dis, t'as besoin de quoi? Alors ça, même si la personne se présente comme un ami, bon, ben, on sait que c'est pas un ami. On sait que c'est une relation, une connaissance. Et l'opportunisme montre comme ça l'utilisation. L'opportunisme, c'est l'utilisation intéressée des relations. Et si aujourd'hui, on veut parler d'engagement, de service, et plus particulièrement aussi de relations et d'équipe dans le service, alors il faut d'emblée poser des questions de motivation, quoi. On fait équipe, oui, mais on fait équipe pourquoi? Hein? Tout le monde sait, alors tout le monde, j'allais dire peut-être pas tout le monde, mais ça c'est une image qui concerne plus les hommes. Hein? C'est la question, c'est comment on construit une bonne équipe de football. Alors les femmes, bon écoutez, souvent en général c'est une question qui vous intéresse assez peu, mais on sait qu'on peut pas juste fabriquer une bonne équipe de football en prenant des individus puis on les met tous les uns ensemble et on espère que ça va bien marcher. Des fois la sauce prend et puis des fois ça prend pas. Ils peuvent être tous très très bons, mais ils peuvent faire une équipe très très moyenne. Pourquoi? Parce que si chacun considère seulement les autres comme étant des faire-valoir de sa propre valeur, si chacun considère les autres seulement pour être là, pour le mettre lui en valeur et pour que lui ait la gloire, alors finalement, on n'a pas sur le terrain, on n'a pas une compétition entre deux équipes, mais à l'intérieur même de l'équipe, on a une compétition entre 11 personnes. Et donc, évidemment, ils peuvent pas s'en sortir, quoi. Donc, OK, on est dans une église. Une église, c'est aussi une équipe quelque part, hein. Mais on est en équipe pourquoi, comment, en vue de quoi, pour quelle motivation et comment on travaille ensemble, hein. Est-ce que juste chacun cherche à récolter le plus de miel possible, hein, ou comment ça marche? Alors, je voudrais venir à une question. On va lire pas mal de textes, hein, toute la journée. Matthieu 8, d'abord ce matin, dans cette première partie, on va parler un petit peu de ce qu'est l'engagement. L'engagement, le service, nos motivations, pourquoi est-ce qu'on s'est engagé? On s'est engagé à quoi d'abord? Quand on signe, il faut quand même bien lire le contrat avant de signer. On a tous aussi, une fois ou l'autre, signé un contrat. Et puis pour s'apercevoir après qu'on n'aurait jamais dû signer ou qu'on aurait dû en tout cas le lire. Merci beaucoup. C'est pour me laver les pieds? Non, non, c'est pour rien. Merci beaucoup. Alors Matthieu 8, 18, Matthieu 8, 18. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Oh yes, voilà. » Très bien. Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Qu'est-ce que Jésus est en train de dire à ce brave monsieur qui vient avec une bonne intention, en tout cas semble-t-il une bonne intention, il dit « Je te suivrai partout ». Ça c'est quand même bien, quelqu'un qui s'approche de Jésus et qui dit « Je te suivrai partout ». Et l'impression que nous donne la réponse de Jésus, c'est que Jésus était pas très sûr de la réponse du monsieur. Il semble finalement la mettre en doute. Il la met en doute. Pourquoi? Parce qu'il dit à ce monsieur, je ne suis pas certain que tu aies pris conscience de ce que ça impliquait de me suivre. Je ne suis pas très certain que tu aies vraiment compris que me suivre, c'est quelque chose de délicat, d'exigeant. Est-ce que tu as réellement calculé si tu veux aller jusqu'au bout? Parce que Jésus dit, les renards ont des tanières. C'est-à-dire que dans la nature, les oiseaux ont ce qu'il faut. Mais Jésus dit finalement, moi, le Fils de l'homme, je suis moins bien pourvu que les animaux dans la nature. Les renards savent dormir, etc. Les oiseaux ont leur petit nid. Mais moi, le Fils de l'homme, eh bien finalement, question confort, c'est zéro, quoi. Donc ce que Jésus dit à ce monsieur, c'est tout simplement ça. Il lui dit, si tu veux me suivre partout où nous irons, eh bien tu vas être logé à la même enseigne. Et donc, ça sous-entend que, en tout cas, dans la perspective de Jésus, tout au moins à l'époque, là, dans son contexte, suivre Jésus, c'était opter pour l'inconfort. Et rien que la question de devoir vivre dans l'inconfort pour suivre Jésus, ben, ça peut suffire à arrêter un certain nombre de personnes. Rien que, rien que le coup de l'oreiller, c'est pas facile. Je ne sais pas si vous avez déjà dormi par terre. Quels sont ceux qui ont dormi par terre comme ça? Mais tout le monde dort par terre ici dans le Nord? Mais c'est beau ça. C'est magnifique. Alors, quand j'étais jeune, donc il y a très très longtemps, et un moment avant d'être converti, j'étais arrivé un peu à la conclusion que le monde est dur, que le monde est difficile à vivre, et que pour s'en sortir, il faut être vraiment faut être dur, il faut s'endurcir, hein. Et parce que je me sentais quelque part menacé, je me suis dit, Jean-Marie, il faut que tu t'endurcisses pour t'en sortir, hein. Alors, par exemple, j'avais décidé que je dormais par terre, hein. J'avais un lit, hein, j'avais un lit chez moi, j'avais un lit, mais je dormais par terre. Donc, je mettais une couverture par terre, hein, et je dormais par terre directement, comme ça, sur le plancher, sans oreiller, sans rien du tout. Alors, les gens étaient un petit peu, des fois, surpris quand j'allais quelque part de voir que je dormais comme ça. Et finalement, je me suis rendu compte qu'on s'habitue, très très bien. Bon, j'avais 20 ans, hein. Aujourd'hui, je sais pas si j'aimerais autant. Mais donc, même quand j'allais chez, à l'époque, c'était ma fiancée, sa maman était horrifiée de voir que je dormais par terre, comme ça. Mais bon, on se fait à tout. Mais seulement, il faut être d'accord et il faut l'avoir choisi. Et si Jésus le dit spécialement à ce monsieur, vous pouvez être sûr qu'il ne lui dit pas ça d'une manière comme ça par hasard. C'est pas une réflexion qui lui vient à l'idée comme ça et comme s'il avait dit ça à ce monsieur comme il lui aurait dit autre chose. Non, Jésus le regarde. Jésus voit ce qu'il est. Il voit comment il vit, comment il fonctionne. Et Jésus lui fait une remarque qui correspond à lui, ce qu'il a besoin d'entendre. Hein. Et quand on dit à Jésus, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras, alors le Seigneur nous parle à ce moment-là de nous-mêmes. Et il nous parle dans notre cœur de ce qui peut effectivement nous arrêter, nous bloquer, nous empêcher, nous freiner, nous faire revenir, hein, en arrière. Hein. Et la seule question très très matériel, très 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 basique de poursuivre Jésus, être peut-être amené à vivre dans l'inconfort, à vivre à la dure, à vivre sans aide, sans moyens, à vivre dans un endroit peut-être, je sais pas, un endroit humide, froid ou je sais pas quoi, des choses comme ça, ça peut suffire. Hein. Moi, je voyais quelquefois, j'ai été missionnaire quelques années en Afrique, Eh bien, là, c'est le contraire. On avait trop chaud, mais il y avait des gens pour qui c'était. Moi, quand j'ai expliqué comment on vivait dans les conditions, j'ai des gens qui m'ont dit, mais moi, je pourrais pas. Pourtant, c'est que des problèmes matériels. Bon, et c'est vrai qu'à N'Djamena, il faisait un peu chaud, c'est vrai. On avait 3 mois entre mars du 15 mars jusqu'au 15 juin, fin juin, il faisait en tout cas à l'ombre 40, 45, un peu tous les jours. La nuit, ça descendait au moins à 38, quoi. Hein. Et si vous aimez pas dormir au chaud, c'est désagréable. Hein. Il y avait des gens on avait des fois des visiteurs, et ils n'arrivaient pas à dormir parce qu'ils n'arrivaient pas à dormir chaud comme ça. Alors ils prenaient vite une douche. Il faut prendre une douche puis vite aller se coucher. Mais vous avez 5 minutes pour vous endormir, hein? Parce que dans 5 minutes, vous êtes sec, hein? Après, il faut recommencer, hein? Mais il y avait bien des ventilos, mais en général, il y avait des pannes de courant, il ne marchait pas. Donc, c'était pas très facile. Bon, et voilà, ça, c'est des conditions matérielles. Mais c'est juste une petite base, une petite base. Et je pense que des fois, quand on dit, ouais, tout pour Jésus, tout pour Jésus, il faut être réaliste, hein? Autant Jésus est extrêmement spirituel et autant il est tout à fait réaliste, pragmatique. Si des points de difficulté comme ça nous empêchent, alors à plus forte raison, les difficultés plus profondes, celles qui touchent l'âme, celles qui touchent le cœur, alors seront encore plus rédhibitoires. Est-ce qu'on peut, pour servir Jésus, est-ce qu'on peut accepter de perdre quelque chose. Hein, on a le matérialisme est quand même dans nos sociétés occidentales, c'est quand même un point fondamental d'empêchement à suivre Dieu. Alors c'est un empêchement pour se convertir, pour les inconvertis, mais on ne peut pas négliger que c'est aussi un empêchement à l'intérieur même du corps de Christ. Hein. Parce que même si on a décidé de suivre Jésus, si après tous nos efforts vont dans le sens, par exemple, d'améliorer notre quotidien, ben on sert Jésus, mais pour quelle proportion? Hein? Alors, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que pour être chrétien, il faudrait être absolument dans l'ascétisme, vivre une vie austère, et puis ne manger plus que des pâtes, hein, et puis dormir sur un tas de cailloux. Et... Non, je ne dis pas ça. Je dis seulement que il faut être conscient que cet engagement que Jésus attend de nous est un engagement qui va nous demander beaucoup. Verset 21, le verset suivant, dit un autre, toujours Matthieu 8, 21, un autre dit à Jésus, un autre lui dit, d'entre les disciples, vous voyez, c'est déjà un disciple quand même, hein? Mais il avait une question, il lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père, hein? Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts, hein? Et la première fois que j'ai lu ça, j'étais quand même un peu choqué parce que je me disais quand même, si ce monsieur, si son père vient de mourir, le minimum, c'est quand même au moins de lui donner d'aller à l'enterrement, quoi, hein. Mais finalement, on n'est pas obligé de comprendre dans ce texte, on n'est pas obligé de comprendre que ce monsieur était décédé, que le papa de ce monsieur était décédé. Ce que ce monsieur est en train de dire, il est en train de dire, mon père est bien âgé, il est bien âgé, peut-être même qu'il est, il est peut-être pas en très bonne santé, enfin bref. Et ce monsieur est en train de dire, quand mon père sera mort, quand il sera mort, quand il sera enterré, quand ça sera tout fini, alors je te suivrai. Mais il ne sait pas si c'est dans 15 jours, dans 6 mois, dans 2 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc, ce qu'il est en train de dire à Jésus, il est en train de lui dire, oui, je te suivrai, mais pas maintenant. Je te suivrai, mais plus tard. Je te suivrai quand plus rien ne m'en empêchera. Et Jésus voit très bien que dans le cœur de cet homme, il y a un énorme danger, c'est le danger de remettre à plus tard. C'est le danger d'être très consacré demain. Beaucoup de chrétiens sont très très consacrés demain. C'est comme tous les régimes, hein? Tous ceux qui commencent demain. On sait on n'en a jamais trouvé qu'ils soient efficaces, hein? Hein? Déjà ceux d'aujourd'hui sont pas faciles, mais ceux de demain, alors ceux-là, c'est sûr qu'ils sont inefficaces, hein? Et si Jésus répond à cet homme d'une manière un peu, quand même, un peu, j'allais dire qu'il peut paraître un peu carré, c'est presque un peu agressif, hein? Comme réponse, c'est un peu agressif, mais c'est parce que Jésus lit dans son cœur de cet homme particulièrement, il lit dans son cœur que ce monsieur est dans le grand danger de s'illusionner sur lui-même. Il croit toujours qu'il sera capable plus tard. Quand le problème avec son vieux papa va être réglé, peut-être dans 5 ans, qu'il sera mort et enterré, alors entre-temps, une autre difficulté dans sa vie se sera présenté et il va se trouver aussi de nouveau empêché et une autre fois et autre chose, il va remettre comme ça et jamais il ne parviendra à être vraiment quelqu'un qui suit Jésus. Frères et sœurs, soyons bien attentifs avec ça. Une façon que nous avons, que l'homme naturel a, de dire non à Dieu, parce que dire non à Dieu, c'est difficile. Ça exige quand même beaucoup d'énergie et beaucoup de rébellion. Alors plutôt que de dire non à Dieu, la plupart du temps, quand on est chrétien, on ne dit pas non à Dieu, on lui dit seulement plus tard. C'est plus confortable. C'est plus facile. On n'a pas l'impression de s'opposer. On n'a pas l'impression de résister. On n'a pas l'impression de désobéir. On dit seulement plus tard. Mais en 10 ans plus tard, Jésus dit non, 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 non. En disant ça, tu es en train de te comporter comme les morts qui s'occupent des morts. Alors c'est sûr que la formule, hein, la formule est une formule extrêmement, extrêmement carrée, cassante même. Mais elle a le mérite, hein, elle avait le mérite dans cette histoire de mettre, hein, cette personne en face réellement d'elle-même. Combien de fois on a décidé des choses qu'on commencerait plus tard, des choses qu'on ferait plus loin, des choses qui, voilà. Mais on sait très bien qu'on les a pas faites. Donc Dieu ne se paye pas avec des intentions. Il a besoin de voir effectivement où nous en sommes. Hein, Paul dit la bonne volonté, quand elle existe, est méritoire en fonction de ce qu'elle a à sa disposition et non pas en fonction de ce qu'elle n'a pas. Hein, la route de demain, dit un proverbe espagnol, je crois, mène à la ville de nulle part. La foi de demain, hein, comme c'est dans la guérison, avec la guérison, c'est pareil. Aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai pas la foi pour être guéri, mais je sais que demain j'aurai la foi. Écoutez, la foi de demain n'existe pas. La foi de demain n'existe pas. La foi est une réalité d'aujourd'hui. Nous avons réellement la foi que nous avons maintenant. Et nos intentions sont nos intentions de maintenant. Nos engagements sont nos engagements de maintenant. Espérer qu'on saura mieux, qu'on fera mieux demain est une illusion. Voyez, ce deuxième point est plus difficile à régler que le premier. Le premier, l'histoire de l'oreiller, c'est seulement le confort, c'est seulement matériel. Ça touche que le corps. Mais le point suivant est beaucoup plus difficile parce que c'est un point qui touche les ressorts de notre âme et surtout c'est un point qui touche l'émotionnel. C'est un point qui touche l'émotionnel. Ce monsieur s'y remet à plus tard. Il remet pas forcément seulement à plus tard parce qu'il est paresseux ou quoi, mais peut-être aussi parce qu'il est sous la pression de son papa. Il est aussi sous la pression de son entourage. Qui décide ce que nous faisons? Est-ce que c'est nous ou est-ce que ce sont nos relations? Quelle est la portion, quelle est la proportion de ce que nous faisons que nous décidons nous-mêmes et dans quelle mesure il peut y avoir des pressions de notre entourage qui nous permettent ou qui ne nous permettent pas de faire? Et dans beaucoup de familles, pour des chrétiens, ce sont des difficultés. Oh frère, je ferais bien ceci, cela, mais vous savez, mon mari, ma femme, c'est pas très chaud, ou mes parents ne le comprendraient pas, ou quand même nos enfants pensent que, ou ma belle-mère, alors ça c'est bien sûr le truc. Mais qui décide? Et Dieu nous dit qui décide dans ta vie? Qui décide ce que tu fais? À qui dois-tu demander l'autorisation pour servir? De quelle autorisation as-tu besoin pour servir Dieu? Comprenez-moi bien. Je ne suis pas en train de partir dans une espèce de croisade anti-famille. La question, c'est pas de dire on s'en fiche de tout le monde, on fait chacun. Non, non, c'est pas ça. On est tous d'accord, hein, celui qui prend pas soin des siens pire qu'un infidèle, Dieu nous demande de nous occuper des nôtres, etc. On est d'accord avec tout ça. Donc, bien sûr, on est dans des recherches d'équilibre. Hein. Mais ces recherches d'équilibre ne doivent pas nous masquer que quelquefois, nous sommes sous des pressions qui nous empêchent de servir. Combien souvent nous avons vu en particulier un exemple, un cas d'espèce qui est très fréquent, ce sont des dames qui sont de vrais disciples de Jésus, mais qui ne parviennent jamais à s'engager vraiment dans l'œuvre de Dieu parce que leur mari y est contre. Soit qu'il ne soit pas converti, donc il fait des difficultés, soit peut-être même est-il converti, mais converti, un converti du dimanche matin. Il y a des sœurs qui ont des maris qui sont convertis le dimanche. Donc le dimanche, ils sont d'accord, on va au culte. Après, le reste de la semaine, ils disent à leur femme, oh, doucement quand même. Hein? Doucement quand même. Est-ce que Dieu a dit, hein, ou est-ce que Dieu a dit dans la Bible qu'il faut être à l'église tous les jours, hein? Alors là, ça, tu exagères quand même un peu. Et puis ça fait des déplacements, ça fait des frais. Et puis tu es plus jamais là. Alors ça veut dire si tu reviens toujours en retard, le repas est pas prêt à l'heure, etc. Ce qui est une grande torture pour eux. Alors on a malheureusement dans ces cas des dames qui se sont parce qu'elles ont cru dans leur culture, elles ont cru qu'elles devaient se soumettre à ça. Donc elles ont abdiqué de servir Dieu parce qu'elles se sont soumises au choix de quelqu'un qui avait décidé qu'il ne le ferait pas, mais qui lui par ailleurs en dehors de ça, lui fait exactement ce qu'il veut quand il veut. Quand il y a l'heure à la télé où il y a le truc qu'il préfère, ben là, il demande à personne, il met la télé. Quand il doit sortir, il sort. Quand il doit faire ceci, il sort. Quand il va faire son sport, il va, etc. Donc lui, il a le choix, mais son épouse n'a pas le choix, elle, de choisir de servir Dieu. Et voyez, alors, mais faire ses choix, c'est rentrer quelquefois sur un terrain de difficulté. C'est rentrer dans une confrontation. Alors, oui, mais Jésus est pour la paix. Est-ce que vous avez bien remarqué, je vais vous faire remarquer une chose, la proportion des discussions que Jésus a eues dans les évangiles, qui sont paisibles, et la proportion des discussions que Jésus a eues et qui sont des conflits, c'est quoi la relation? Eh bien, vous avez plus, à mon sens, il faudrait le chiffrer un jour, mais à mon sens, vous avez plus de discussions de Jésus avec des proches qui sont des conflits que des discussions paisibles. C'est le prince de la paix quand même. Mais le prince de la paix, c'est pas quelqu'un qui évite les conflits. Éviter les conflits, c'est un tort. Les rechercher aussi. Mais la vérité est dans l'affirmation de ce que Dieu nous a demandé d'être. Et quelquefois, ça va changer, ça va provoquer chez nous des difficultés dans nos relations avec les gens. Matthieu 13, on va un petit peu plus loin dans Matthieu. Matthieu 13, vous connaissez bien cette parabole, la parabole du semeur à partir du verset 4. Tout le monde connaît bien ça, mais je le relis juste pour nous rafraîchir un peu les idées. Matthieu 13, 4, un semeur sorti pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Premier terrain. Un deuxième, une autre partie tomba dans des endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'il n'y avait pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Deuxième, encore un troisième terrain. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Enfin, heureusement quand même, happy end, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc tout le monde connaît bien cette partie. J'ai des fois entendu, ça m'a fait sourire, des prédicateurs dire qu'il y a que cette parabole dit qu'il y a 25% seulement qui rapporte. Non, ça serait traité cet agriculteur d'être un peu bébête quand même, hein. Il a pas semé les trois quarts de sa semence ailleurs que dans de la bonne terre, hein. Mais le fait est que comme on semait à l'époque à la volée, ben forcément il y a toujours un peu de grain. Si quand vous arrivez au bord du champ, si vous voulez que le grain a jusqu'au bord, ben forcément ça va déborder un peu sur le chemin. Quand on est au bord des épines, ça va déborder un peu dans les épines. Et puis s'il y a un endroit avec des cailloux, ça va déborder un peu. Maintenant, si l'agriculteur est quand même un tout petit peu sensé, j'espère quand même qu'il aura semé 95% de son grain sur le bon terrain et que le reste, ça sera seulement un petit peu les erreurs de parcours. Mais c'est pas une, les paraboles sont pas là pour nous donner des proportions. Elles sont là pour nous parler de qualité. Alors il y a différentes qualités. Nous sommes, nos cœurs sont de quelle qualité? Tu vois, personne a Vous pensez que vous êtes concerné par quel terrain? N'est pas? Vous voyez votre cœur comment? Comme une espèce de sentier rocailleux, dur, ou un sol avec des rocheux ou des épines, ou vous voyez comme un bon terrain? Je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? On vote? C'est la saison, hein? C'est la saison. Alors, quels sont ceux qui se voient comme un mauvais terrain, comme un chemin? Bon, il n'y en a pas. Quels sont ceux qui se voient comme sur un sol rocailleux? Non plus. Quels sont ceux qui se perçoivent comme un champ d'épines? Un champ d'épines, au fond, d'accord. Quels sont ceux qui se voient comme un bon terrain où la plante grandit? Il y a beaucoup d'abstention, hein? Hein? Beaucoup d'abstention. Vous avez peur ou vous êtes timide? Ils votent pas dans le Nord, les ch'tis? Non? Hein? Ils votent pas. Alors, évidemment, non, vous avez craint une question piège, donc vous avez refusé de voter. Bon, je vous comprends. Vous n'avez pas entièrement tort, hein? Mais En général, nous, chrétiens, nous nous percevons comme le bon terrain où la semence, la parole de Dieu, a pénétré et puis elle grandit, elle porte du fruit. Mais qu'est-ce qui fait, surtout, je prendrai juste la différence, surtout, entre le bon terrain, où la plante grandit jusqu'à porter du fruit, et puis le terrain qui est rocailleux, où elle lève, la tige lève rapidement, mais finalement, elle porte pas de fruits. La différence entre les deux, c'est quoi? Eh bien, Jésus l'explique un petit peu plus loin. Il explique un petit peu plus loin, verset 18. Il dit, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient, enlève ce qui a été semé dans son cœur, cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il croit pour un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Donc, comment est-ce qu'on sait si on est un bon terrain? Ou est-ce qu'on est seulement le terrain pierreux? Comment est-ce qu'on le sait? On le sait à la façon dont on aura réagi avec une persécution. Tant qu'un chrétien n'a pas affronté une persécution, il peut pas savoir de quelle sorte de terrain il est. Non? Puisque la différence, c'est la réaction à la persécution. Donc si quelqu'un n'a jamais été persécuté à cause de la parole, évidemment, il part du préjugé qu'il est un bon terrain, il espère. Mais c'est seulement une espérance. Comment est-ce qu'il va savoir qu'il est un bon terrain? Ben, quand survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole et qu'il n'y trouve pas une occasion de chute. Donc nous espérons tous être des bons terrains. Mais en avons-nous fait la preuve? Nous en aurons fait la preuve quand nous pourrons dire, voilà, nous avons affronté des difficultés à cause de Jésus, et voilà comment nous y avons répondu. Ça va, vous me suivez ou hein? Non, sinon je recommence au début, hein. On parle de l'engagement et de la fidélité dans l'engagement. Le mot fidélité, par définition, c'est un mot qui implique quelque chose qui dure. Et quelque chose qui dure, forcément, face à des raisons qui l'empêcheraient de durer. Et être fidèle dans quelque chose de facile, ça, c'est pas de la fidélité. On mesure forcément la fidélité dans la mesure où il y a des raisons d'y mettre un terme. Quand on est jeune chrétien, dès qu'on commence la vie chrétienne, on s'aperçoit que on va avoir des gens, des personnes qui vont s'opposer à notre vie chrétienne. Et c'est là que, à ce moment-là, on va découvrir effectivement comment on est à l'intérieur. Quand je me suis converti, j'étais jeune, je venais juste de me convertir une semaine avant de partir au service militaire. À l'époque, voilà, vous savez pas, les jeunes, vous savez pas ce que c'est. À l'époque, tout le monde allait un an sous les drapeaux. On faisait un an, on faisait différentes choses. Enfin, ça dépend. Moi, j'ai fait 11 mois et demi de plonge. Parce que comme je m'étais manifesté comme trop pacifiste, ils m'ont casé à la plonge pour me saquer. Alors, donc, j'ai fait 11 mois de plonge. Donc, je me demandais pas quelque chose de militaire parce que je sais pas, hein. Mais je connaissais très bien la machine à faire la vaisselle. Et alors, donc j'ai fait un an sous les drapeaux comme ça et je me suis rendu compte que ma nature et n'aimait pas obéir. Ma nature n'aimait pas se soumettre. Et quand on est à l'armée, c'est désagréable, hein. Alors, j'ai eu beaucoup d'ennuis comme ça et je devais me rendre compte que est-ce que je veux porter du fruit pour Jésus ou pas. Quand je suis sorti de l'armée, j'ai travaillé dans une clinique privée à Grenoble. Et là, forcément, il y avait des temps où ma foi, mon comportement était mis à l'épreuve. Un jour, je passais comme ça à la pharmacie, dans la pharmacie de l'établissement, et la pharmacienne me dit « Tiens, Jean-Marie, ça me rend service, si vous me portez ces deux bouteilles d'alcool au service de kiné, ça me rendrait… » Mais je dis « Bien sûr, je vous rends service volontiers. » Et puis, comme ça, sur le pas de la porte, je dis « Mais… » Une question, ça m'est devenu une question bête comme ça. Je dis mais pourquoi de l'alcool? Pourquoi de l'alcool à 90 en kiné? On fait rien en kiné avec de l'alcool. Qu'est-ce qu'on fait avec de l'alcool à 90 en kiné? Alors je lui dis mais qu'est-ce qu'ils font avec de l'alcool à 90 en kiné? Alors elle a rigolé, elle m'a dit ouais mais ça c'est le chef de la kiné qui fait son pastis. l'éthanol médicinal, en fait, 2 litres d'éthanol médicinal, ça fait surtout 4 litres de pastis. Ah d'accord, j'ai dit, alors excusez-moi, je vous rends vos bouteilles, et j'aime bien rendre service, mais ça je ne ferai pas. Ça je ne ferai pas, parce que ça il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit, l'établissement reçoit un droit à utiliser de l'alcool non dénaturé, mais pas dans ce but-là. Donc ça, je n'irai pas. Et la dame était très fâchée. Non, pas seulement fâchée parce que je refusais de lui porter son truc, elle pouvait le faire elle-même, mais parce que, en lui disant ça, je remettais en question de face son propre manque d'intégrité à elle. Alors les gens après sont fâchés et vous commencez à avoir des persécutions. C'est des petites persécutions. Mais c'est des persécutions quand même. Parce que quand dans un établissement, vous commencez à passer pour un faillot, pour quelqu'un qui, etc., qui ceci, qui cela, que vous êtes mis à l'index, c'est quand même très désagréable. C'était bien plus facile si je fermais ma bouche, j'emmenais mes 2 bouteilles et puis c'est tout. Vous voyez ? Et c'est là qu'on commence à savoir quelle sorte d'engagement on a. Mais les engagements qui ne coûtent rien ne sont pas des engagements. Une autre fois, quelqu'un a commencé à faire circuler dans l'établissement une pétition pour une grève. Alors peut-être qu'ils avaient des bonnes raisons, ça, je sais pas ça la question, mais tout d'un coup, au détour d'un couloir, on me présente une feuille, ouais, Jean-Marie, voilà, tout le monde signe, il faut signer, etc. J'étais pris de court et bêtement, j'ai pris la feuille, je savais pas quoi dire. Bêtement, j'ai signé. Mais après, ma conscience me dit, mais Jean-Marie, tu signes quoi? Est-ce que tu sais seulement ce que tu as signé? Donc, je suis retourné au secrétariat. Je dis, mais je veux revoir la feuille. Je veux relire tranquillement ce que j'ai signé. Alors oui, pas de problème. On m'a montré, mais j'étais atterré. Je dis, mais moi, je suis un enfant de Dieu et je signe un papier sur lequel je menace mon patron. Mais c'est pas possible, ça. Tous les jours, je lis des versets, obéissez à vos maîtres selon la chair, comme servant le Seigneur lui-même, etc. Et je le menace. J'ai dit, mais moi, je ne peux pas signer ça, je regrette. Redonnez-moi la feuille où j'ai signé. Donc, on m'a ressorti la feuille où j'ai signé, j'ai barré ma signature. Alors là, c'était. Alors bien sûr, après, c'était pire, hein. Là, si au moins je me l'étais fermé depuis le début, mais là, ouais, voilà. Allez. Et il y avait un certain nombre de gens qui refusaient même de me parler, qui me disaient plus bonjour. Ouais, Fayot, machin, quand on aura obtenu satisfaction, tu auras obtenu aussi, mais toi, ton nom sera pas sur la liste, etc. J'avais beau essayer de leur expliquer que moi, je travaillais pas pour ça et tout, mais personne, quand c'est comme ça, personne n'en a rien à foutre. Voilà, mais j'ai dit, moi, je veux être honnête avec ce que Dieu fait. Je veux être droit avec ce que Dieu dit. Vous savez, si le diable veut que vous commenciez à avoir des persécutions, il n'y a pas besoin de beaucoup. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Mais vous commencez à vous trouver marginalisé, vous commencez à vous trouver dévalorisé, on commence à se moquer de vous, vous commencez à avoir des problèmes de toutes sortes. J'allais de chambre en chambre, quand j'avais du temps, comme ça, j'allais visiter les malades, ceux qui étaient dans des petites chambres séparées, pour leur parler. Alors j'arrivais, je disais, comment vous allez? Alors bien sûr, les gens, oui, mon foie, je dis, non, je ne parle pas de votre foie, je vous parle de vous. Vous, comment vous allez? Vous avez le moral? Vous avez des visites? Comment vous voyez la vie? Les malades me regardaient avec des yeux comme ça. 5 minutes après, ils me racontaient leur vie. Et on parlait de Jésus. Si, mais je veux pas. Ah oui, mais ils me disaient, oh, mais vous savez, moi, la religion, c'est nul. Je dis, oh, ben ça, vous avez raison. Hein. Franchement, alors là, franchement, la religion, hein, oh, c'est nul. Alors ils me disaient, mais vous venez pas de m'en parler? Ah non, je dis non. Ah non, non, moi je vous ai parlé de Dieu. Non, non. Après, vous parliez de religion. Alors ça, c'est nul. Mais moi, je vous parlais de Dieu. Mais si vous voulez, on peut parler de Dieu. Et j'ai eu des contacts comme ça, c'était formidable. Mais après, je suis toujours sur le fil du rasoir. Il suffit qu'une personne ne soit pas contente, parle de ça au chef de service, au DRH, et puis voilà, vous êtes sur un siège éjectable. Mais notre engagement, c'est quoi? Notre engagement, c'est quoi? Si on veut parler de fidélité dans l'engagement. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'époque dans laquelle nous sommes aujourd'hui, cette époque postmoderne est une époque qui est dans laquelle un des facteurs, c'est le rejet de l'engagement. C'est le rejet de l'engagement. Les jeunes en particulier ont beaucoup, beaucoup de peine à s'engager. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on croit, c'est qu'on a le droit de ne s'engager que dans la mesure où c'est dans notre intérêt. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus s'engager, ou même quand ils disent qu'ils s'engagent, ils s'engagent seulement pour maintenant, parce que maintenant, ça leur correspond. Mais si dans 6 mois, ça ne leur correspond plus, ils viennent, ils vous rendent tout. Non, ben, je n'y vois plus ma voix. Et tu te débrouilles. Mais il faut être bien conscient de ça. Nous sommes dans une époque, l'époque postmoderne dans laquelle nous sommes, est une époque où les gens sont extrêmement fragiles. Très, 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 très fragiles. Et je terminerai avec ça parce que je crois que c'était 11 h, hein, la fin. OK. Donc je termine avec ça. Mais on reviendra sur ça. On reviendra sur ça. Dieu, l'engagement que nous avons pour Dieu est un engagement qui est d'une qualité qui est extrêmement, extrêmement différent de ce que nous ressentons et vivons aujourd'hui dans notre société. Notre société actuelle est une société qui nie la responsabilité. Du reste, il n'y a plus de responsable nulle part dans rien. C'est la multiplication des règlements parce que chacun veut toujours chercher comment rendre son subalterne responsable à sa place. C'est le parapluie des responsabilités. Mais personne ne veut être réellement engagé. Est-ce que quand nous disons à Jésus et à Dieu que nous lui disons que nous sommes engagés d'une manière globale, entière pour notre vie, et après concrètement dans les activités, les choses qui concrétisent, qui rendent, qui donnent un corps à notre engagement, nous sommes engagés comment? Pourquoi? Est-ce qu'un problème d'inconfort nous fait arrêter? Un problème émotionnel nous fait arrêter? Une persécution, un ennui, nous fait arrêter? Est-ce qu'il suffit que quelqu'un parle mal de nous et on arrête? Combien de pasteurs, hein, aujourd'hui, on voit des gens qui se sont, des chrétiens qui se sont engagés et puis qui, 6 mois après, reviennent et ils abandonnent tout. Il redonne au pasteur, tenez, tenez, je vous rends le cahier, je vous rends le cahier de compte, je vous rends votre stylo, je vous rends votre clé, je vous rends tout. Non, non, mais vous vous rendez compte? Je me suis engagé pour servir le Seigneur dans l'église et j'ai entendu qu'on me critique. Ah ben alors, il ferait bien voir qu'on me critique. Ah ben, tenez, je vous rends tout, débrouillez-vous. Ah ben, parce qu'on te critique, tu arrêtes. Ah bon? C'est dommage qu'on ne l'ait pas su au début, on ne t'aurait pas pris. Hein, parce que c'était sûr que tu serais critiqué. Est-ce que Jésus n'a pas été critiqué? Est-ce qu'on avait des raisons de le critiquer? Aucune. Et il a été critiqué quand même. Et toi, tu voudrais, toi qui as des raisons d'être critiquable, tu ne voudrais pas être critiqué. Et tu arrêtes parce que tu es critiqué. Ah ben, il fallait nous le dire tout de suite. Alors, c'est sûr que tu n'étais pas un bon candidat. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Nous sommes devenus fragiles. Très, très fragiles. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens sont extrêmement fragiles. Extrêmement fragiles. Il suffit qu'ils puissent suspecter, qu'on puisse dire sur eux ceci, cela, pour que déjà, ils ne veuillent déjà plus s'engager. Ben, c'est une grande fragilité. Hein. Même en étant très bon, tu seras critiqué. L'apôtre Paul était critiqué. Tout le monde a été critiqué. Les meilleurs sont critiqués. Et si tu étais très, très médiocre, certainement on ne te critiquerait pas, parce que le diable ne chercherait même pas à perdre son temps. Il ne va pas perdre son temps quand la médiocrité de quelqu'un a déjà fait ses preuves. Mais quand quelqu'un est bon, alors il va chercher à saper ton boulot. Quelle sorte d'engagement avons-nous? Qui servons-nous au fond? Tiens, une bonne question. Qui servons-nous? On sert qui? Est-ce que le simple fait de savoir que Dieu est content de ce qu'on fait, est-ce que ça nous suffit? Souvent, on l'a dit, Seigneur, c'est que pour toi que je le fais. Mais quand tout d'un coup, on apprend que personne ne nous félicite, que personne n'est d'accord, on dit, hein, belle église, hein? Ah ouais? Ah ben voilà une belle église, tiens. Elle est belle l'église de Christ, tiens. Ah ben, tu peux te défoncer, tu te donnes, hein, tu te donnes à fond, tu peux y aller, hein. Pas un qui vient te dire merci, ouais. Ah ben, elle est belle l'église de Christ, ouais. Elle est jolie, tiens. Ah ben, dis donc. Mais on oublie que la veille, on a dit, Seigneur, c'est que pour toi, Seigneur. Et le Seigneur au ciel, il dit, ben oui, je l'ai pris, moi tout seul. Où est ton problème? Seigneur, merci de nous aider. Merci de nous donner, Seigneur, d'être lucides. Nous ne voulons pas nous tromper nous-mêmes par de faux raisonnements. Nous ne voulons pas prétendre que nous sommes tes serviteurs, hein, et calculer la dépense. Nous ne voulons pas, Seigneur, hein, nous faire à nous-mêmes, hein, illusion. Nous sommes à ton service, hein, et nous voulons l'être vraiment. Seigneur, c'est toi qui le sais. C'est toi qui sais. Réellement, Seigneur, hein, la profondeur de notre engagement. Et Seigneur, dans la mesure où il n'est pas aussi profond que nous voudrions, Seigneur, pardonne-nous et change-nous. Change-nous, Seigneur. Amen. Amen.